protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous. Il y a quelques mois, le deuxième ouvrage de Jacques Ellul a été publié, ce qui a donné l'occasion de parler à nouveau de ce penseur. Il avait publié en 1987 un livre intitulé « Anarchie et christianisme ». Mon invité d'aujourd'hui, Raphaël Dutrieux, se situe dans cette mouvance. Alors, bonjour Raphaël.
Bonjour.
Vous avez rejoint les rangs du protestantisme réformé en étant adulte. C'est bien ça?
C'est bien ça, oui.
Vous n'aviez pas d'influence religieuse auparavant?
Je pense que si. Mes grands-parents sont catholiques.
Oui.
Mais mes parents ont quitté la foi avant de m'avoir. Et donc, j'ai grandi dans un foyer athée.
Mmh.
Voire peut-être même un peu antithéiste, parce que mon père, j'ai envie de dire, est très cartésien et professeur de physique chimie, mais en fait Descartes, on va dire, croyait en Dieu, donc ça ne fonctionne pas vraiment, mais en tout cas très terre à terre, on va dire, et ils m'ont pas enseigné ces choses là voire même d'ailleurs quand je suis venu à croire en Dieu, ça a posé quelques soucis avec lui.
Oui, oui. Oui. Pas de catéchisme, pas d'instruction, pas de rien du tout.
Non. Il y a un moment dans ma jeunesse où j'écoutais des débats entre des théologiens et des
athées.
Dans la jeunesse,
oh,
oui.
Oh, c'est bien, c'était quelqu'un de précoce.
Pour vous rajeunir, on va dire, dans ma adolescence.
Ah, bon, d'accord, ok. Et donc, vous avez rencontré le protestantisme, donc, si j'ai bien compris, par des auteurs, en fait.
Oui, c'est ça, ouais. Protestantisme, du coup, Jacques Ellul.
Ouais.
Et avant ça, pour ce qui m'a amené à la religion, c'est Spinoza.
Oui, d'accord, ouais. D'accord. Et pas de personnes vivantes.
Et pas de... j'ai des personnes religieuses dans ma vie, mais qui n'ont pas su me convaincre.
Oui, d'accord. Et alors, comment ça s'est fait, donc, votre choix du protestantisme? D'abord, du christianisme. Comment ça s'est passé?
Mais je pense que j'étais déjà un peu anarchiste.
On va en parler de ça, ouais.
Du point de vue chrétien, j'aurais jamais pu me diriger vers l'Église catholique, étant donné la hiérarchie du pouvoir dans cette Église.
Ouais.
Et donc je pense que c'est la rencontre avec Jacques Ellul qui m'a fait me rendre compte que c'était possible d'allier mes convictions religieuses et politiques.
Ouais.
Et donc assez naturellement, je me suis renseigné un peu sur ce que faisait l'Église protestante à Montpellier, et
ah ouais.
Puis je suis venu par le biais d'ateliers de théologie. En fait, je me demandais un peu comment ces théologiens qui m'avaient affecté Spinoza, Jacques Ellul, étaient regardés par la communauté protestante.
Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé justement par rapport à Jacques Ellul? Est-ce que vous avez trouvé des gens qui se situaient dans la même perspective ou qui étaient très différents? Parce que des fois, on peut se faire une représentation un peu fantasmée. Quand on lit Jacques Ellul, on peut se dire « Ah, super !» et tout. Puis rencontrer des gens qui ne sont pas forcément...
Oui, puis moi, je n'ai pas lu tout Jacques Ellul.
Déjà, le deuxième tome, il fait 900 pages.
Mais quand je suis arrivé dans l'église, notamment, c'est Emeline Daudet, la pasteur de Jacques Ellul,
ouais.
qui m'a dit qu'effectivement, c'était un grand théologien.
Ouais.
Plus tard, à un atelier, un pas de côté, on m'a dit oui, là, que Spinoza et Jacques Ellul, c'était des bonnes références. Quoi. Donc, j'ai été agréablement surpris.
Ouais.
Ou en tout cas,
conforté.
Si j'avais des attentes confortées dans le fait qu'il y avait quelque chose. On entend parler des fois de Jacques Ellul, pas forcément sous l'aspect anarchiste. Par
oui,
contre,
oui.
Souvent, c'est peut-être d'autres choses de lui qui sont prises. Des fois, on m'a fait remonter aussi des critiques. Quelqu'un, à un moment, m'a envoyé un article qui s'appelait « Jacques Ellul, le Christine Boutin de la décroissance
». D'accord. Ok. Oui, c'est assez bizarre. Alors, on va parler d'abord de votre engagement protestant, puis on verra après le côté politique.
Oui.
Bien que chez vous, ça soit mêlé, mais... Disons d'une façon thématique, on va faire comme ça. Vous m'avez parlé de l'influence des Quakers aussi.
Oui.
Alors, pourquoi les Quakers?
Alors,
d'abord, définissons un peu ce que c'est que les Quakers, parce que c'est peut-être des gens qui savent plus ce que c'est que les Quakers.
Mais les Quakers, c'est bah, initialement une branche du christianisme qui est apparue au 16e, 17e siècle, qui n'a pas de clergé.
Oui.
Ils sont
très pacifistes.
Ils sont très pacifistes. Il y a eu un foyer en France, pas très loin de Montpellier, à Congénie, où des gens voulaient... protestants se sont fait tuer leur pasteur, etc. Ont pris les armes pour résister contre les catholiques et ont décidé de rester purement dans le pacifisme et très attachés à l'esprit. Ils se sont retrouvés sur la même longueur d'onde que les Quakers qui sont plutôt apparus au Royaume-Uni.
Oui.
Il y a George Fox, Margaret Fell qui sont l'origine de ce mouvement.
Il parle de lumière intérieure.
Il parle de lumière intérieure.
Alors qu'est-ce que c'est que la lumière intérieure ? Comment ça se manifeste chez vous, la lumière intérieure ? C'est peut-être une question un peu compliquée de parler de lumière intérieure. C'est très intime, mais est-ce que vous pouvez essayer de le définir par rapport à vous-même ? Qu'est-ce que ça vous apporte ?
Déjà, on peut lui donner plusieurs noms.
Ouais.
Dans un texte qui m'a beaucoup affecté sur le sujet. Il est dit qu'on peut aussi l'appeler esprit, parole ou Christ. Pour moi, c'est simplement peut-être le phénomène qui m'apparaît. Bon, je pense juste ma vie spirituelle qui, pour moi, est vérité, finalement. Et c'est à partir de cette lumière intérieure que je vais aussi... faire le tri des informations qui me viennent de l'extérieur, et c'est à travers elles que je vais aussi lire les Écritures, et je pense que c'est ça qui en fait une parole vivante.
C'est intéressant parce que quand on parle de lumière intérieure, on a tendance à le relier à des religions orientales, peut-être chez certaines personnes, et là vous le reliez justement par l'intermédiaire des Quakers à une religion occidentale.
Complètement.
Ouais. Oui. Et ça, c'est l'intermédiaire des Quakers, donc de ces courants pacifistes, un peu hors norme. Il y en existe toujours des Quakers, moi j'en connais.
Il y en existe toujours.
Oui. Bon, ils sont un peu vieillissants, je ne sais pas s'il y a toujours des églises Quakers.
Figurez-vous que les résidents qui viennent d'arriver à Congénie, là, sont très jeunes, ils sont un peu plus jeunes que moi.
D'accord.
Et puis voilà, il y en a beaucoup du coup au Royaume-Uni, il y en a aux États-Unis, puisque c'est un Quaker qui a fondé la Pennsylvanie, qui s'appelait William Penn.
Oui.
Donc il y en a pas mal. Ouais. Moi, j'ai appris leur existence d'abord par une anarchiste, justement, puisque vous
vouliez
m'écarter
de ce
sujet. Mais,
on va y arriver.
C'est dans Action directe de Voltairine de Cleyre, parce que dans l'action directe, il y a aussi des actions pacifiques. Elle parlait de leur rôle pour l'abolitionnisme aux États-Unis. Justement.
Voilà, alors justement, c'est pour ça que je voulais définir un peu tout ça avant de parler de la position politique, parce que ça montre qu'il y a des passerelles. Alors, je voudrais terminer sur votre engagement dans la communauté pour qu'on vous connaisse d'abord, vous-même personnellement. Est-ce que vous avez un engagement donc dans la communauté protestante à laquelle vous êtes rattaché? Est-ce que vous y êtes bien? Est-ce que vous avez trouvé votre place? Est-ce que vous participez à des choses qui vous intéressent?
Oui, bien sûr, oui. Je suis rentré par l'intermédiaire du pas de côté à Jacou.
Alors, le pas de côté, c'est?
C'est donc des ateliers de théologie, on va dire.
D'accord.
Où c'est, voilà, il y a quelqu'un qui anime, mais c'est aussi assez participatif.
Oui.
Et donc c'est là où j'ai pu d'abord un peu m'imprégner des discours et où j'ai vu justement il y avait cet attachement dans cette église à un peu à ce qui est pas de hiérarchie justement.
Ah oui.
Moi après c'est pas la question. Après je me suis pas mal intéressé aussi au dialogue interreligieux. C'est actif dans le dialogue islamo-chrétien à la Margelle et puis aussi dans le dialogue interreligieux une question à la fois.
D'accord. Et alors, vous professez, donc vous l'avez dit, et on va y venir maintenant, des idées anarchistes. Est-ce que vous êtes accepté avec vos idées ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il peut y avoir un mur parfois ou une réticence ?
Dans l'Église ?
Oui.
Je pense plus un peu de l'incompréhension.
Ouais.
Je pense qu'il y a peut-être quelques levées de bouclier par rapport à des propositions que je puisse faire, mais... mais surtout, parce que j'ai tendance à me présenter, mais partout, comme, en tant que militant anarchiste chrétien, mais alors ça choque autant les anarchistes que les chrétiens.
D'accord. D'accord.
Mais d'une manière un peu différente. Je pense que souvent, les gens n'ont pas forcément la connaissance de l'histoire de l'anarchisme, et il y a tellement de propagande médiatique de la part de la bourgeoisie sur ce courant philosophique et politique que je sais qu'il y a des a priori. Et puis
justement, on va être là pour démasquer les a priori. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous plaît justement? Bon, l'anarchisme, d'abord, est-ce que vous pouvez le définir rapidement, en tout cas dans sa version que vous professez, parce qu'il y a plusieurs anarchismes. Il y a les actions directes qui peuvent être violentes, et puis il y a l'anarchisme pacifiste.
Mais justement, l'action directe peut être violente. Mais en fait, c'est simplement l'idée d'une action directe, de ne pas attendre des institutions que l'action soit faite, de prendre les choses entre ses mains, mais on peut le faire de manière très pacifique. Et notamment, là, dans le mouvement social qu'on a eu en septembre, Bloquons tout, etc., c'était essentiellement des blocages pacifistes qui constituent de l'action directe.
Donc, première idée à démolir, l'action directe ne veut pas dire forcément prendre les armes.
Déjà, l'action directe inclut les actions pacifiques. Juste, il y a une reconnaissance de la légitimité de la violence quand on est dominé dans un rapport de force et face à l'autorité. Parce que finalement, l'anarchisme, c'est le refus de l'autorité, le refus de la hiérarchie. Ça peut être pacifiste. D'ailleurs, dans des échanges entre Marx et Proudhon, au tout début, quand il lui dit voilà, vous appelez ça communisme et nous on appelle ça liberté, égalité, et ce qu'on veut, mollo, parce que ce qu'on voudrait éviter, c'est une Saint-Barthélemy des propriétaires.
Oui. Et alors, donc, le refus de... Donc, vous refusez l'autorité, enfin, l'anarchisme refuse l'autorité, mais ça, c'est l'aspect politique, mais il y a aussi l'aspect économique. C'est-à-dire, il y a le rejet du capitalisme...
En fait, finalement, Puisque il y a le rejet de la propriété privée, en fait.
Oui.
Et notamment de la propriété lucrative, en fait. L'idée, c'est pas tout est à tout le monde et chacun peut rentrer chez vous.
Oui, on peut conserver sa maison avec son petit coin de jardin.
L'usage, notamment de c'est son site de travail, d'avoir l'usage de son site de travail. Mais voilà, il y a cette idée commune avec les communistes de récupérer les moyens de production et d'abolir la propriété privée et d'abolir l'État bourgeois, en fait.
Parce que vous parlez donc de technofascisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le technofascisme?
C'est que là, justement, on se rend compte que les technocrates sont en train de devenir des grands bourgeois.
Oui.
Donc, il y a des gens qui parlent de technoféodalisme, des gens qui parlent de technofascisme. Effectivement, l'IA arrive, qui a les capacités de
l'intelligence artificielle.
Qui sait lire.
Oui.
Et donc.
Qui raconte des conneries, des fois.
Qui raconte des conneries.
Parce que c'est pas toujours très exact.
C'est clair.
Oui.
Oui, elles hallucinent, mais comme nous.
Oui, mais enfin, nous, on est censé halluciner, alors que là, c'est un outil qui devrait, en théorie, ne pas halluciner.
C'est un outil en progression, mais avec lequel on pourrait imaginer qu'on surveille l'ensemble de nos conversations privées sur les ménageries. Oui, et puis c'est.
J'ai déjà fait.
Puis il y a des lois qui sont en ce sens, qui tentent de passer à la légalité, quoi.
Oui.
Donc on a l'impression qu'on pourrait tout d'un coup un peu verrouiller les possibles.
Vous avez l'impression que le monde va vers un fascisme.
Mais ça, c'est clair.
Oui, c'est pas...
La montée de l'extrême droite, elle n'est pas démontrée.
C'est pas extrêmement original. Ouais. Tout le monde peut s'en rendre compte. Et en quoi c'est lié avec l'écologie, avec le racisme, cette montée de ce technofascisme?
Mais en fait, on va vers le fascisme parce que le capitalisme est en crise.
Oui.
Et le problème du capitalisme, c'est que ce qui compte, c'est les profits avant tout. Alors, si vous commencez à compter les externalités négatives, la pollution, etc., dans votre comptabilité, tout d'un coup, c'est plus profitable. Alors, juste, il y a un intérêt, en fait, à ne pas penser long terme et à penser profit court terme. Et donc, on a un étau sécuritaire nous permet de maintenir un cap qui détruit la planète.
Oui, ça. Alors ça, je pense que tout le monde est à peu près conscient, ou beaucoup de gens sont conscients, mais le problème que j'entends, c'est que c'est beau comme idée, l'anarchisme, mais que c'est pas possible. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une hostilité. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait une hostilité, mais je pense que c'est plutôt le côté utopiste de l'anarchisme.
Non, je pense pas. Ce qui est utopiste, c'est de penser qu'on va pouvoir continuer dans cette trajectoire sans perdre quelques milliards d'humains bout du compte. Non, c'est possible. En fait, c'est simplement la bourgeoisie qui ne veut pas perdre la propriété du capital. Et donc qui met tous les moyens en œuvre pour déjà créer une propagande contre ce type de projet. Et ensuite, du coup, ouais, on a à faire face à cette force-là, quoi, qui a la police, qui a l'armée. Et effectivement, la perspective d'une révolution internationale, démocratique et sociale...
Mais comment elle pourrait se faire, cette révolution internationale, démocratique et sociale? Parce que l'anarchisme, ça date... quand même depuis longtemps. D'ailleurs, il y a eu des anarchistes protestants, je ne me rappelle plus le nom, il y a Élie et puis Élisée, je ne sais plus comment
ils s'appellent. Élisée
Reclus. Voilà, Reclus. C'est pas nouveau, ça.
Oui, Élisée Reclus.
D'ailleurs, Sévenol.
Bakounine, Proudhon,
ouais,
Kropotkine.
Ils n'ont jamais finalement réussi à, comment dirais-je, moi, à imposer un modèle ou à faire un modèle politique. Pourquoi ? Est-ce que c'est possible de faire un modèle politique anarchiste ?
Oui, bien sûr, oui. Et puis, il y a un déjà là, je veux dire, quand on a des sociétés qui sont en coopérative, on a de l'entraide. Je pense que, en fait, les moyens, c'est que les travailleurs acquièrent une conscience de classe et fassent la grève générale, en fait. Et à partir de ce moment-là, qu'on commence à s'organiser par la démocratie directe, localement, et qu'on tente de se fédérer à plus large échelle et essayer de vraiment de recréer quelque chose par la base, quoi. Alors, par contre, on ne sait pas... Il y a des secousses révolutionnaires régulièrement. Il y en avait encore en septembre. Je pense que les gens, il y en avait beaucoup qui étaient dans cette perspective-là. Mais voilà, on fait face à une répression qui est de plus en plus forte.
Oui, mais comment fédérer des groupes qui ne veulent pas justement être fédérés ? Est-ce que c'est possible ? Je pense au mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Les Gilets jaunes, bon, ça pouvait paraître spontané au début, ça l'était d'ailleurs, mais on a vu qu'il y avait des gens qui étaient racistes, qu'il n'y avait pas de fédération possible parce qu'il y en avait qui tiraient d'un côté, il y en avait qui tiraient de l'autre. Alors, comment faire finalement pour fédérer tout ça sans tomber dans la forme parti politique et donc pouvoir. Est-ce que vous en discutez dans vos collectifs anarchistes? Est-ce que cette discussion...
C'est vrai que... Là, le mois de septembre, il y avait des assemblées citoyennes tous les mardis sur les marches du Quorum. Je pense qu'il y en a peut-être encore, mais il y a très peu de gens, il n'y a plus trop de souffle. Et effectivement, on était un peu dans un entre-soi, finalement. Mais malgré tout, elle se tirait dans les pattes, alors parce que l'intersyndicale fait n'importe quoi, parce qu'il y a des partis trotskistes, ça fait peur aux gens, c'est de l'entrisme. Il y avait des tas d'idées préconçues, et puis du coup, les gens... et puis beaucoup d'indignation, et finalement... dans la difficulté de déverser cette colère contre notre ennemi de classe, finalement, ça se tirait pas mal dans les pattes. Mais justement, en fait, on a un intérêt commun, quoi. Les travailleurs du monde entier, en fait, ont un ennemi commun. Alors, on n'est pas ennemis avec les travailleurs russes, en fait. C'est chacun, en fait, a finalement la responsabilité de se débarrasser de sa propre bourgeoisie. Voilà, pour instaurer une société sans classe.
Mais là, je me fais l'avocat du diable. Hein. J'essaye de montrer comment ça peut... Enfin, les arguments que l'on donne pour justement ne pas croire à l'idée anarchiste, ou du moins à la réalisation de l'idée anarchiste. Par exemple, en 1914, l'internationale ouvrière, on connaît l'histoire, hein, et puis Jaurès est assassiné, et sur la tombe de Jaurès, on prononce un discours qui se rallie à la guerre. guerre. Hein, bon. Et donc, est-ce que la bourgeoisie est toujours quand même assez forte pour récupérer les gens, que ce soit par des discours patriotiques, comme on l'a vu en 14, ou alors par des autres discours? Est-ce que vous pensez, je pense que vous le pensez, puisque vous êtes dans ce mouvement-là, vous voulez y croire, mais comment arriver à faire passer vos idées par rapport à l'ennemi que vous avez en face de vous, qui est quand même extrêmement puissant?
Bah, on a la chance quand même d'avoir des médias indépendants aujourd'hui, ouais. sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ouais. sur Twitch. On peut s'organiser aussi sur nos messageries privées, Signal, Telegram qui sont chiffrés. On a des canaux pour faire de la contre-propagande, parce qu'effectivement, le discours guerrier aussi, il est là. En fait, finalement, le budget contre lequel les gens se sont insurgés, c'est un budget de militarisation de France, en même temps que de...
Et puis le discours sur l'immigration, c'est toujours,
toujours une manière de diviser, ouais. diviser les gens. Et puis voilà, y a pas de souci pour faire peur oui. avec la Russie.
Ça marche, la peur.
Ça marche bien, oui.
Oui, ça marche très bien, la peur. Bien. Et est-ce que vous êtes un peu en progression par rapport à quand, par rapport... Est-ce que le mouvement gagne en audience, ou est-ce que vous êtes toujours... Vous avez parlé de, finalement, d'être entre soi, enfin...
Oui, mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés, qui comprennent aussi les problèmes de la société actuelle, quoi, de ce système capitaliste, ouais. patriarcal, raciste, et qui... mais aussi beaucoup en réaction finalement à la montée de l'extrême droite, c'est-à-dire aussi que c'est ça qui est peut-être un peu inquiétant, c'est aussi parce qu'on voit que l'extrême droite gagne du terrain, que des gens se disent ok, ben j'ai besoin d'outils théoriques, j'ai besoin de pratiques révolutionnaires, et donc je vais me diriger à gauche, mais du coup c'est des mouvements qui montent aussi, quoi.
Ouais. Et vous avez parlé d'anarchisme chrétien en disant que c'était pas facile parce que les anarchistes disaient faut pas être chrétien et les chrétiens disaient faut pas être anarchiste. Alors oui. Comment est-ce que vous êtes seul à porter les deux drapeaux ou est-ce que c'est une position inconfortable, mais est-ce que ça vous gêne que ce soit une position inconfortable?
Non, bah c'est riche aussi. J'en ai rencontré deux, trois autres.
Hein.
Je ne suis pas entièrement seul.
Voilà, un groupe dans le petit groupe.
Et puis des sympathisants. Mais c'est vrai que dans le milieu anarchiste, bah notamment à Montpellier, on a l'Union communiste libertaire qui a une librairie dans le centre de Montpellier où ils font des permanences tous les samedis. Et donc j'étais allé les voir parce que j'étais aussi seul dans mon anarchisme à un moment. Et puis je lis un peu leur charte et puis je vois que c'est une organisation athée. Alors moi je dis y a un problème, c'est que je suis pas athée.
Quoi.
Et la personne me dit si pour participer il y a pas de souci, mais pour adhérer va falloir se poser la question, quoi.
Ouais.
Et c'est marrant parce que c'est vraiment dans l'introduction de Jacques Ellul dans Anarchie et Christianisme, justement lui il va vers Guy Debord, les situationnistes, pour justement militer avec eux.
Alors c'est quoi les
situationnistes?
Oui.
Je ne saurais pas vraiment dire, mais je crois que c'est peut-être l'idée d'essayer de chercher les opportunités partout où elles peuvent être. Peut-être que je dis n'importe quoi, hein, mais je ne sais pas.
Mais enfin, ni Dieu ni maître, c'est bien un slogan anarchiste, alors.
Eh bien, même pas, en fait.
Ah bon?
Du coup, je dément ça, parce que c'était initialement le titre de la publication de Blanqui, au moment de la Commune.
Oui.
Et je ne pense pas que c'était le slogan de Louise Michel à ce moment-là. Mais qui a été repris par les anarchistes, notamment il y a Ni Dieu ni Maître, c'est aussi le nom du coup d'un documentaire en quatre parties sur l'anarchisme qui est super, que je recommande.
Ouais.
C'était repris par Daniel Guérin aussi. Et parce que déjà c'est un clic dans la critique des institutions religieuses de l'Église,
oui,
notamment l'Église catholique, et puis aussi du coup un anticléricalisme, mais qui des fois du coup se confond avec un refuge de l'autorité divine, quelle que soit l'idée qu'on puisse mettre derrière Dieu. Et donc moi je dirais plus un seul maître, Dieu.
Et alors comment c'est le discours que vous leur avez tenu, comment vous avez essayé de rentrer en contact avec, est-ce que c'est... Alors, d'abord, répondez à cette question, puis je vous poserai la seconde après, parce que je ne vais pas mélanger les questions.
C'est ça, moi, j'essaie de défendre l'idée qu'on peut renverser le capital et abolir l'État bourgeois en étant guidé par l'esprit révolutionnaire du christianisme primitif. Parce que justement, c'est une phrase de... Les révolutionnaires, justement, on entend souvent en fait, dans le milieu politique que la religion, c'est l'opium du peuple.
Oui.
Et alors, c'est dit de manière très mécanique, sans vraiment penser le contexte dans lequel
il dit ça, etc.
Oui,
parce qu'il y a un contexte, effectivement. Ouais. Quand on dit aux ouvriers, de toute façon, ne vous inquiétez pas, là, vous n'avez rien à bouffer, mais à l'au-delà, vous serez les rois, c'est quand même l'opium du peuple, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. C'est évident que le contexte fait que Marx n'avait pas tort.
Il y a ces utilisations-là de la foi. Mais aussi, Engels, du coup, le camarade de Marx, a écrit « Contribution à l'histoire du christianisme primitif
»,
où il fait des liens assez directs entre les premiers chrétiens et les participants de la Première Internationale, où ils se retrouvent un peu dans leur combat, et Lénine aussi, dans l'État et la Révolution, dit voilà, il y a un esprit révolutionnaire et démocratique au christianisme primitif, donc les révolutionnaires reconnaissent ça aussi.
Et est-ce que donc c'est plus difficile de convaincre des protestants, donc des chrétiens, de l'anarchisme, ou est-ce que c'est plus difficile de convaincre des anarchistes de votre engagement chrétien? Enfin, est-ce que vous arrivez quand même à être reconnu? Parce que est-ce qu'on vous traite pas comme un doux rêveur chez les anarchistes en disant il croit en Dieu, voire il est dans le cléricalisme, parce que souvent le protestantisme on le connaît pas et on croit que c'est un cléricalisme.
J'ai l'impression un peu de méfiance de la part des anarchistes.
Ouais.
Et finalement, je suis assez plus proche des trotskistes qui se disent il est un peu idéaliste, c'est un petit bourgeois intellectuel qui c'est mignon, mais en même temps avec beaucoup d'affection aussi. Je pense que oui, je suis reconnu, je suis pas suivi, mais je suis reconnu.
D'accord. Et donc du côté chrétien, donc qu'est-ce que vous pouvez leur dire aux chrétiens? Quel est le message que vous pouvez dire pour dire n'ayez pas peur des mouvements anarchistes ou de l'idée anarchiste?
Ah il faut pas avoir peur de l'idée anarchiste.
Oui, mais dites pourquoi?
Parce que finalement c'est simplement des gens qui veulent un système basé sur l'entraide plutôt que la compétition.
Oui, alors justement, oui, vous avez parlé de la coopération plutôt que la compétition. Ça, c'est aussi la coopération de, comment il s'appelle, Charles Gide, l'école de Nîmes, qui a instauré les coopératives, c'était au 19e, 20e, ou tournant, c'est peut-être un peu après, mais enfin bon, plutôt le 20e que le 19e. Mais ça, vous le trouvez dans le protestantisme. Cette idée de coopération plutôt que la compétition. Et ça plaît aux anarchistes, cette idée, ça peut leur parler?
Mais complètement, je pense que c'est fondamental, quoi. C'est une coopération sans contrainte. Finalement, justement, quand on parle de coopérative, c'est aussi l'idée en fait de fonctionner sans hiérarchie, sans capitaliste en fait, qui serait là pour ponctionner la plus-value du travail des travailleurs et simplement fonctionner en commun. Mettant de la démocratie dans l'entreprise, en fait.
Oui, mais ça n'a pas beaucoup marché, finalement, cette école de Nîmes.
Pas beaucoup marché.
Ça s'est cassé la figure. Et puis, on n'en parle plus. On est toujours dans les deux schémas, soit le capitalisme, soit le communisme. Mais le mouvement coopératif, il n'a pas tellement marché. Et est-ce que, justement, il y a une prise en compte des anarchistes de vouloir remettre la coopération, le mouvement coopératif Ils en parlent ou pas, ou c'est pas une de leurs préoccupations?
Pour moi, ça fait partie des clés, en fait.
Ouais.
Quand on parle de reprendre, en fait, finalement, on parle de reprendre les moyens de production, en fait, à la bourgeoisie. Donc ça, comment ça se fait? Ça se fait en fonctionnant en coopérative, je pense.
D'accord.
Après, voilà, dans un système capitaliste où on a un rapport de force qui est en notre défaveur, c'est difficile. Donc, on construit, en fait.
Bon, on vous souhaite bonne chance à vous, à vos camarades. Et puis, je vous remercie donc d'avoir participé. Je remercie Olivier d'être à la réalisation. Et puis, je dis à bientôt à nos auditeurs. Au revoir.
Oh, peace, I'll share this dream.
protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.